Bonjour et bienvenue dans l'émission Ma commune est utile. Donc, je me représente Gérard Queval. Je vais animer cette émission avec à mes côtés Alain Castan, président de l'Association des maires ruraux de la Dordogne, et Brigitte Cabirol, maire de Saint-Barthélemy. Bonjour Brigitte, bonjour Alain.
Et bonjour.
Bonjour.
Donc nous retrouvons sur cette émission.
Notre émission qui paraît toutes les semaines.
Voilà. Donc aujourd'hui, on va peut-être parler un petit peu des budgets des communes, parce que vous les avez votés ces dernières semaines.
Ben, l'obligation, c'était de les voter cette semaine à maxima, et avant le 15 avril. Donc pratiquement toutes les communes, qu'elles soient rurales ou urbaines, ont voté leur budget. Puisque la grosse différence entre une commune et puis l'État, c'est que l'État, lui, n'est pas obligé d'équilibrer son budget. D'ailleurs, on voit la dette, le montant de la dette, alors que nous, on est obligé de l'équilibrer. Et sachant en plus tout ce que nous a pris l'État en dotation, nos budgets, c'est de plus en plus difficile à les rédiger. Et donc, on vit avec ce que l'on a, et c'est vrai que ce n'est pas facile.
Il est vrai que l'État ne rend pas de compte là-dessus. On parle de dette de l'État, mais dès que une commune est un peu en déficit, c'est le haro de tout sur la commune en question. On est obligé donc de voter des budgets équilibrés, autant en dépenses qu'en... Donc on peut dire qu'on est les rois des finances. J'ai mis au masculin. Hein.
Voilà, on est les Colbert de la nation. Et c'est vrai que quelque part, dotation globale de fonctionnement, c'est pratiquement, suivant les communes, entre 20 et 40% que l'État nous a soutiré, nous a plus redonné. Donc il faut faire. Moi, je caricature, mais quand je dis, si aujourd'hui un employé, son patron lui disait, mais du jour au lendemain, je vais te supprimer 20 à 40% de tes revenus, je ne sais pas comment il ferait, quoi. Bien que c'est de plus en plus difficile aussi pour nos concitoyens, mais les mairies aussi, on a nos difficultés et c'est de plus en plus difficile, d'autant plus, comme je l'ai déjà dit, c'est que la taxe d'habitation a été supprimée. Donc quand vous avez, elle était basée sur la taxe d'habitation de 2017, je vois la commune de Saint-Léon-sur-Lys, que tu parlais tout à l'heure, Gérard, 70 maisons de plus entre 2017 et aujourd'hui, donc il y a un manque à gagner énorme. Donc qu'empoche l'État. Et justement, dans la compensation de ce taxe habitation, parce que le concitoyen lambda ne le sait pas, mais ça a été l'occasion par la compensation de sucrer aux communes rurales 21 milliards d'euros au niveau de l'État, de l'Hexagone, et puis 40 millions d'euros pour le département. Voilà les conséquences. Et bien sûr, derrière, il ne faut pas s'étonner aujourd'hui qu'il y ait des mairies, et une grosse majorité de mairies, et bien ils ont monté le taux du foncier bâti pour pouvoir récupérer. Alors heureusement, cette augmentation est quand même, je vais dire, minime ou substantielle. Mais pourquoi ? Parce que la base des valeurs locatives, des bases locatives ayant augmenté de 3,14, ça fait que quelque part, déjà, l'administré va avoir déjà une augmentation d'impôts sur son foncier bâti et non bâti. Voilà.
Même si les communes ne pensent pas à augmenter les taux, ce qui est une majorité quand même, parce qu'on ne gagne pas franchement sur le foncier. Le foncier bâti et non bâti, on avait une marge de manœuvre sur la taxe d'habitation qu'on n'a plus. Et c'est vrai que c'était une mesure purement électoraliste de l'époque. Maintenant, on attend de savoir. On parle de nous supprimer la CVAE au niveau des communautés de communes.
C'est quoi la CVAE ?
La CVAE, c'est l'ancienne taxe professionnelle. Et ils veulent récupérer 14 milliards d'euros. Je crois que c'est 14. Hein. Et donc, ça veut dire que c'est de l'argent que les communes n'auront plus en communauté de communes. Il faut bien penser que les communautés de communes vivent avec l'argent que leur donnent les communes. Alors bien sûr, ils ont des dotations, comme nous on a des dotations de l'État, mais comme ça, leur grande marge de manœuvre, c'est les communes qui adhèrent à cette communauté qui payent la communauté. Et puisque la communauté elle n'existe pas normalement, c'est pas une collectivité, elle n'est pas dans la Constitution. Donc il faut la faire vivre différemment, et qui est-ce qui paye ? c'est les communes. Et il ne faut pas oublier une chose, c'est que la communauté de communes est au service des communes et pas l'inverse. Et je pense que beaucoup de présidents de communautés de communes s'approprient la communauté de communes et saignent aux 80 certaines communes pour un minimum de services rendus. Et ça, je le dis tout haut. Voilà, je sais de quoi je parle, donc voilà.
Et c'est pour ça que moi j'avais proposé à Jacqueline Gourault, notre ministre des Territoires, de modifier la Constitution et d'interdire à un maire d'une ville-centre d'être le président d'une communauté de communes ou d'une communauté d'agglos. Ça permettait quand même aux communes rurales qui sont majoritaires de pouvoir intervenir bénéfiquement au niveau d'un territoire et non pas au niveau d'une commune.
Alors, pour ma communauté de communes, où l'on compte 9 communes, donc une commune centre, sera donc 8 petites communes autour, il y a 28 conseillers communautaires, mais ma commune, moi, celle des Gurandes, celle des Chournières, qu'on est représentée par un représentant, le maire ou la maire. Donc à un moment, cherchez l'erreur, 3 communes, 3 voix, 28 conseillers communautaires sur 9 communes, 3 maires, 3 voix sur 9 communes. Je veux dire, à un moment, on n'y arrivera jamais. Donc c'est toujours la commune-centre qui s'acoquine avec quelqu'un ou s'associe, si je ne veux pas faire à coquiner, mais j'y pense vraiment, à copiner, on pourrait dire, ça serait mieux. Voilà, à copiner, et puis qui ont la majorité partout. Et nous, donc, les petites communes, eh ben, on n'a rien à dire, tu n'as droit qu'à payer.
Et le résultat, eh bien, c'est évident, par expérience et puis c'est écrit, c'est qu'aujourd'hui, 80% des investissements se font sur la commune centre. Donc au détriment des communes rurales autour, et après on se plaint que les communes rurales se plaignent, mais c'est la vérité. Aujourd'hui, nous sommes très très mal représentés et écoutés au sein de ces communautés de communes et de ces communautés d'agglos.
Je vais me faire un petit peu l'avocat du diable. Dans une commune, il n'y a pas un petit peu cette politique entre le bourg et puis les hameaux?
Ben, nous, on a une commune qui est très... Moi, j'ai une commune de 3500 hectares, donc qui est très étalée, mais elle reste rurale et petite. Je conçois très bien qu'on puisse faire les travaux, des travaux de crèche, de centre de loisirs, de gendarmerie à la ville-centre. Il ne viendrait pas l'idée de faire un centre de loisirs à Saint-Barthélemy. Mais quelque part, on attend aussi des compensations. Et c'est vrai que nos habitants des petits lieux-dits autour... Bon, c'est vrai qu'on ne va pas aller leur installer des choses, voilà, et c'est comme le bourg de Saint-Barthélemy, mais ce qu'on veut un minimum, c'est de la voirie, on veut une école, faut que nos administrés aient de quoi vivre dans nos villages, voilà, c'est essentiel, et de vivre bien.
Alors, tu vois, là-dessus, c'est justement, je vais faire le rapprochement entre ce qu'est une communauté de communes et une communauté d'agglomération. Ça veut dire que pour ce que tu viens de dire, je suis entièrement d'accord, mais pour la communauté d'agglomération, c'est pas du tout le même cas. Aujourd'hui, moi, je suis vice-président de la communauté d'agglo de Bergerac, donc Bergerac et Périgueux, deux communautés d'agglo. Ce que nous, les maires ruraux, on a mis en place et que nous ne voulons plus voir, c'est 80% des investissements faits sur Bergerac. Donc, ce qu'on a demandé, c'est que tous les projets structurants, centres événementiels, pistes d'athlétisme, les stades, ça soit regroupé sur Bergerac, mais justement les centres de loisirs, les crèches et oui. tout ce qui est autour du périurbain soit fait sur les communes rurales. Et ouais. Ça marche.
Oui, mais tes communes rurales, elles sont au bord de Bergerac. Tu as un bassin de vie qui est important. Nous, notre commune centre, c'est Montpont. Donc, si on met un centre de loisirs à Échourniac ou à Saint-Sauveur-la-Lande, ça va faire des kilomètres aux gens. C'est très bien que notre lieu, c'est en étoile et c'est plutôt Montpont. Je conçois très bien que les gens amènent leurs enfants au centre de loisirs. Quand tu compares avec Bergerac, toutes les villes, ça fait un peu banlieue autour. Enfin, vous êtes vite rendu à la ville centre et c'est un peu différent, je trouve. Mais bon, après, c'est un avis... voilà. Par contre, je pense que le fait d'investir dans vos communes, c'est une bonne idée. Moi, j'ai fait de l'investissement, mais pas de chance, c'est l'assainissement. Et comme l'assainissement...
Ça rapporte rien.
Voilà, donc je suis obligé de payer, et puis tais-toi.
Voilà. Juste une petite question comme ça. par rapport à ta commune. La fermeture de l'usine Grégoire, quelle répercussion ça peut avoir sur vos petites communes?
Et elle peut être énorme. Alors déjà, il y avait eu un premier wagon, il y avait beaucoup de gens qui étaient partis, parce qu'on a eu jusqu'à 700 employés, 400, maintenant 200 et quelques. Et c'est vrai qu'on a beaucoup de gens qui travaillaient chez Grégoire, et c'est un grand souci. Alors d'un autre côté, on a quand même un point positif, et puis il y a une asso qui s'est créée pour aider les employés à retrouver du travail, à se resituer dans le... C'est qu'on a quand même... En ce moment, pas mal de demandes d'emploi partout, puisque tout le monde cherche et des ébénistes, et des magasiniers, des chauffeurs. Donc je pense que là, c'est là qu'on verra aussi Pôle emploi faire son travail, former pendant les 2 ans qui viennent des gens pour leur offrir un nouvel emploi. Je pense que les employeurs ont besoin d'employés, et donc il faut les mettre en relation et faire un relais avec Pôle emploi pour qu'ils puissent les former et qu'ils s'adaptent à de nouveaux emplois. Mais c'est vrai que ça fait une perte déjà. La CVAE, la taxe professionnelle de Grégoire, maintenant peanuts. Hein.
Je vais revenir sur la question un petit peu des budgets, parce que moins d'argent. Et tout à l'heure, on parlait des chemins ruraux pour l'entretien, tout ça. Donc, est-ce que tu peux préciser un petit peu les choses sur la question de qu'est-ce que c'est qu'un chemin rural?
Ah ben là, on change complètement de direction. On va parler des chemins ruraux parce que ça intéresse beaucoup les gens. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes vont faire de la randonnée, vont faire du VTT, de la moto. Donc, qu'est-ce qui reste dans nos campagnes? Bien sûr, ce sont les chemins ruraux. Les chemins ruraux, il y a une réglementation. D'abord, quand il y a des constructions ou quand un chemin rural est emprunté, il est toujours à la charge des riverains. Il n'est pas à la charge de la commune, ça c'est dans la loi. La commune, elle n'a que l'entretien des voies communales. Donc le chemin rural, c'est aux riverains à l'entretenir. Maintenant, les chemins ruraux, ils sont très importants parce que ça évite souvent de ne pas pouvoir passer sur des parcelles. Donc ça, c'est important. Et ce qu'il y a aussi d'important, c'est qu'on a beaucoup de propriétaires qui s'octroient le fait d'avoir un chemin rural sur leur terrain et de les fermer. Ils n'ont pas le droit de les fermer. Un chemin rural, il n'est pas à la charge de la commune, il est quand même la propriété en revient à la commune. Donc il y a interdiction de le fermer. Donc quand il y a des problèmes, alors pareil pour les élagages, c'est-à-dire que s'il y a des arbres qui jouxtent le chemin rural, le propriétaire doit les élaguer, comme ça se fait dans la loi, et donc doit avoir aussi des permissions de la mairie. Dès qu'ils touchent un chemin rural, il faut qu'ils aient une autorisation de la mairie. Voilà. Donc c'est très très important dans nos campagnes, parce que le chemin rural, c'est le dernier passage pour les gens quand ils veulent aller dans les bois, quand ils veulent aller dans les prés, quand ils veulent se promener. Le chemin rural, c'est super important dans nos communes rurales.
Je voulais préciser une chose. Moi, chez nous, les chemins ruraux, c'est comme le chemin communal. Il est entretenu par la commune. Hein. Moi, on laisse pas. C'est pas une obligation, mais ça permet au moins de pas avoir de conflit de voisinage. C'est la commune qui entretient, parce que souvent, on parle des agriculteurs qui y passent ou des gens. Il y a des gens bien intentionnés qui s'approprient ces chemins ruraux parce qu'ils sont au bout du chemin, ou ils ont une partie de chemin qui est chez eux et tout ça. C'est pas normal. Donc, à un moment, nous, on entretient les chemins ruraux comme les chemins communaux, comme ça il n'y a pas de souci avec les riverains.
Peut-être un habitant peut demander le déplacement d'un chemin rural.
Alors ça existe, moi je l'ai déjà fait dans ma commune, mais ça passe d'abord par une enquête publique, et deuxièmement quand un administré veut récupérer un chemin rural, il est dans l'obligation d'en octroyer la même distance et la même largeur sur un autre morceau de terrain. C'est-à-dire, c'est un échange. C'est pas, sauf si le conseil municipal veut le vendre, ça, ils ont le droit. Mais moi, je le conseille à beaucoup de maires ruraux, ne vendez pas vos chemins ruraux. Parce que ça, c'est dans la finalité, ça finit toujours très mal, parce que y a des droits de passage qui n'existent plus, et ça, c'est dramatique.
Et surtout le long des rivières. C'est-à-dire, oui.
Chez moi, la rivière, il n'y en a pas trop. T'as la Duche, mais bon, c'est pas non plus... dans le cœur de la Double. Bon, c'est vrai qu'il y a eu un moment où on a vendu pas mal de chemins ruraux. On en avait énormément aussi. Donc, et maintenant, on en vend moins que ce qui était, parce que les gens, les fermes qui, à l'époque, avaient des chemins ruraux, sont habitées, ont leur propre accès. Donc, il y a encore quelques tronçons comme ça où on a des demandes, mais on a beaucoup moins qu'autrefois. Et puis maintenant, c'est fait, quoi.
Bon, là, on va faire notre petite pause musicale et on va reprendre tout de suite après.
Devant le portail vert de son école primaire, on le reconnaît tout de suite. Toujours la même dégaine avec son pull en laine, on sait qu'il est un stit. Il pleure la fermeture à la rentrée future de ses deux dernières classes. Il paraît que le motif c'est le manque d'effectifs, mais on sait bien ce qui se passe. On est les oubliés, la campagne, les paumés, les trop loin de Paris, le cadet de leurs soucis. À vouloir regrouper les cantons d'à côté en 30 élèves par salle. Cette même philosophie qui transforme le pays en un centre commercial. Ça leur a pas suffi qu'on ait plus d'épicerie, que les médecins se fassent la malle. Y'a plus personne en ville, y'a que les banques qui brillent dans la rue principale. On est les oubliés, la campagne, les paumés, les trop loin de Paris, le cadet de leurs soucis. Qu'il est triste le patelin avec tous ses ronds-points qui font tourner les têtes. Qu'il est triste le préau sans les cris des marmots, les ballons dans les fenêtres. Même la petite boulangère se demande ce qu'elle va faire de ces bons becs qui collent. Même la voisine d'en face, elle a peur, ça l'angoisse, ce silence dans l'école. On est les oubliés.
Bon, ben après cette petite pause musicale traditionnelle, je voulais qu'on parle un petit peu aussi de la FIB, parce qu'on voit partout dans le département des entreprises qui tirent des câbles. Bon, sur Saint-Léo, c'est pareil. Là, il y a le nœud. Ils appellent ça
NRO.
NRO.
Ouais. Le nœud de raccordement optique. Donc, voilà. Bon, c'est que ça en est. Moi, je fais partie du SMPN, du syndicat Mix Périgord Numérique. Bon, aujourd'hui, c'est le département qui en a complètement la charge. Alors, ça avance. C'est vrai. Le président Perrault l'a dit. Tout le monde devrait être fibré d'ici 2025. Je pense même qu'il peut y avoir un peu d'avance sur cette date. Par contre, bon, y a quelques soucis quand même que moi je me pose surtout en termes de communication. C'est-à-dire qu'il a fallu rappeler à l'ordre les sociétés et les entreprises qui ont été choisies par rapport au marché sur la pose de la fibre. C'est-à-dire que Il y en a certaines qui oublient d'avertir le maire, il y en a certaines qui ne se rapprochent pas assez des communes et ça génère des problèmes. Et d'ores et déjà, moi je le vois sur mon secteur, la fibre a été sectionnée une ou deux fois par des arbres, parce que le problème de la fibre aujourd'hui, on peut comprendre pour gagner du temps, mais c'est qu'elle est pratiquement, il y a beaucoup d'aériens, c'est-à-dire qu'ils la mettent sur les poteaux existants d'Orange, et c'est vrai que quelque part, il y a des endroits, alors il y a des endroits où ça passe très bien, mais il y a des endroits où on est dans des zones boisées, dans des zones accidentées, et c'est vrai que quelque part, passer la fibre comme elle est passée, ça va présenter bientôt quelques soucis de dépannage par rapport au fait que des arbres tombent sur cette ligne qui est toute neuve. Et déjà, sectionner une fibre, c'est une fois qu'elle est coupée, c'est pour la remettre, ça met beaucoup plus de temps qu'un fil simple de téléphone quand c'était le réseau cuivre. Sachant que, bon, on peut comprendre aussi, c'est qu'en 2030, il n'y aura plus de réseau cuivre, et ça veut dire qu'il n'y aura qu'un fil sur le poteau, ça sera la fibre. Voilà. Alors, les NRO, les nœuds de raccordement optique sont presque tout posés. Il en reste quelques-uns. Je sais que, moi, ce qui me concerne, celui de Sigoulès est arrivé. Il est en cours de pose. Tu me dis qu'à Saint-Seurin, il y en a un. À Saint-Léon, il y en a un. Il se pose un peu partout. Alors, ce qui est derrière, qui est en deuxième temps, mais qui est important aussi, il y en a un à peu près par canton. C'est ce qu'on appelle les SRO. C'est la deuxième phase après le nœud de raccordement optique. C'est le réseau qui va arriver après dans les chefs-lieux de canton et qui seront dispatchés après sur des prises par rapport à l'abonné. Alors je rappelle bien que ça c'est important, ça a été dit hein, il n'y a pas longtemps, mais ça n'avait pas été dit jusqu'à présent. Il y a beaucoup de gens qui croient que la boxe va faire partie de la pose de la fibre. Non, pas du tout. La fibre, le département, il est habilité à la poser en limite de propriété. Donc après, c'est comme un branchement électrique. Il faut aller voir un opérateur et faire le branchement. Et ça, le branchement, c'est tout à fait différent parce qu'il peut être de deux sortes. En souterrain, si vous avez du souterrain, mais votre fil cuivre qui alimentait votre téléphone est posé depuis 10, 20, 30 ans. Et c'est vrai que repasser une fibre dans le fourreau, c'est pas toujours évident. Donc il faut faire une tranchée. Sinon, c'est l'accès du réseau public jusqu'à la maison, c'est un accès aérien aussi. Donc voilà, avec tous les inconvénients que cela pose. Mais ça a un coût. Il faut voir son opérateur et lui demander de poser la fibre. Et ça, c'est le client qui paye.
Alors, j'aime beaucoup parler avec Alain parce que j'apprends plein de choses. Moi, c'est vrai que dans mon village, on m'a posé la fibre. Donc, tout ce qui est fil a été posé. Maintenant, on n'attend plus que la mise en service. Par contre, je ne savais pas trop comment ça fonctionnait. Maintenant, j'ai appris NRO, bon, j'avais le SRO aussi. Et par contre, je tiens, s'il y en a quelques-uns qui nous écoutent aujourd'hui, notamment des élus, à faire très attention. Il y a un concurrent d'Orange qui se permet de téléphoner aux mairies et certainement il doit faire la même chose avec les particuliers en disant qu'ils sont prêts à installer au nom d'Orange ces fameuses lignes pour devenir opérateur dans ta maison, ta propriété, ta mairie. Et notamment le maire d'Aigurande qui s'est fait avoir et qui a signé par signature informatique un dossier. Et il est rentré dans cette nouvelle, un concurrent d'Orange qui a pris la main sur son installation et il a signé pour 5 ans. Alors il a appelé Orange quand il a reçu les papiers en disant ben, « c'est vous qui intervenez chez moi » et en fait Orange n'y est pour rien et a dit « vous êtes fait avoir ». Il y a un autre maire qui a eu le même problème en Dordogne, mais il a été au tribunal et finalement il a eu tort parce qu'il a signé électroniquement et donc à partir du moment où il y a la signature, eh bien voilà, c'est donc un concurrent d'Orange qui prend la main. Et voilà, il y a quand même des problèmes, donc j'attire l'attention à tous les gens d'être vigilants sur ce genre d'opérateurs.
Je reviens un petit peu, tu précisais tout à l'heure que bon, effectivement le réseau fibre, il y avait beaucoup d'aériens.
Oui, trop, parce que moi je suis en zone boisée.
J'ai parlé un peu de la commune de Saint-Léon, pour poser la fibre, bon, il y a une bonne partie qui est enterrée, mais toute la partie aérienne, la commune a pris à sa charge tous les lagages. Donc c'est un coût supplémentaire pour là.
Alors, c'est toute la différence avec les anciens réseaux Orange et les anciens réseaux électriques, forcément, puisque c'est compris dedans. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, moi aussi j'ai fait pareil, je suis en train de réfléchir. Il n'y a pas quand même des longueurs très 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 importantes, mais c'est vrai que quelque part il vaut peut-être mieux. Pour la commune de faire cet élagage pour de façon à plus être embêté après, c'est un choix que fait la commune. Ça a un coût. Si le coût est supportable, la commune le fait. S'il n'est pas supportable, eh bien, elle laisse passer la fibre dans les arbres et avec le risque bien sûr d'une rupture quand un arbre tombe. Voilà.
Alors moi, je peux rajouter quelque chose. Hein, ayant une commune boisée, bon, j'ai une commune de 3600 hectares et donc 2900 hectares de bois. Donc à un moment, on a 40 km de route communale, donc forcément, eh ben, ils ont mis la fibre sur nos poteaux Orange. Et on n'a pas élagué, puisque la charge de l'élagage est à la communauté de communes. Donc à un moment, la commune, elle est même, tu peux rien faire sur ton propre territoire parce que la compétence est communautaire. Voilà, donc on a un réel souci. Donc les maires ruraux ont signé avec Orange des conventions pour l'élagage, mais ça nous échappe parce que ça passe forcément chez nous. Ceux qui ont la compétence communautaire, et bien ça t'échappe. Et là, c'est la même chose pour la fibre. Alors bon, c'est déjà bien qu'elle soit posée, on va dire, et puis on attend la suite.
En espérant que les réseaux seront mieux entretenus, parce que quand on voit l'état des réseaux France Télécom sur le bord des routes, on a le droit de se poser des questions sur la question de la fibre.
Alors on peut aussi préciser que nous, les bois qu'on a chez nous, on a pratiquement zéro bois communaux, ou c'est tous des propriétés privées. Donc à un moment, c'est aux gens aussi qui ont des bois à élaguer, à entretenir. Donc la commune peut toujours demander et se retourner. Alors il y en a bien pensants qui diront, faut faire les travaux, puis ils vous rembourseront. Quand tu as un linéaire qui est très important, pour une petite commune, c'est pas gérable. Ou une communauté qui a beaucoup de communes, elle aussi, ça devient gérable. Par contre, je tenais à dire, je sais pas si c'est un problème, mon collègue va peut-être me le dire, depuis qu'on a posé les réseaux fibres, le téléphone portable marche de moins en moins.
Alors, ça a un rapport sans avoir de rapport. C'est pas dû à la fibre, ça. C'est si le réseau marche moins. Alors là-dessus, je connais à peu près, puisque on plante des pylônes un peu partout. Le problème, c'est que tant que la fibre sera pas connectée dans le réseau des habitants, il y a des opérateurs qui proposent des boxes via les pylônes. Et il est bien évident que plus il y a de monde dessus et plus la fréquence baisse. Et ça veut dire qu'il y a encore des pertes justement de fréquence sur la téléphonie mobile. C'est en train de maintenant la fibre arrive, donc c'est en train de diminuer. Mais c'est vrai qu'aussi on l'a fait remonter ça au niveau de France Numérique. Moi je l'ai fait remonter puisque je participe aux travaux de France Numérique. Je l'ai fait remonter et c'est vrai qu'aujourd'hui il y a des études qui sont faites. Le problème, c'est qu'il faut que les maires fassent remonter ces incidences, ces zones blanches qui existent encore, de façon qu'on puisse faire au moins déjà l'étude. Et c'est vrai qu'on a posé... Il faut reconnaître quand même que la Dordogne a été très bien servie à niveau des pylônes téléphoniques. On en voit de plus en plus pousser dans le département. Mais ils étaient utiles et il en manque encore. Mais bon, ça va venir. Moi, je vois sur mon secteur, il y en a une vingtaine qui ont été posées. Je crois qu'il y en a plus de 100 qui ont été posées dans le département. Ça reste quand même un département qui est bien aidé au-delà de d'autres départements. Donc oui, il y a encore des zones blanches, mais c'est pas partout. Voilà, ça s'améliore.
Je ne te parlais pas forcément des zones blanches, je te parlais des coupures de téléphone portable. Tu es connecté, une minute après ça se coupe et tu es obligé de rappeler. Et un mauvais réseau, mais pas de zone blanche. Moi, j'en ai pas, j'ai une antenne orange sur mon château d'eau, donc je ne me plais pas. Par contre, le réseau n'est pas bon. Donc on a des problèmes. Alors c'est des ondes, j'en sais rien, moi je sais pas comment ça marche, mais c'est vrai que depuis quelques temps les fréquences, on est en conversation avec quelqu'un, ça coupe et on sait pas pourquoi, et t'es obligé de rappeler, t'arrêtes pas, donc il y a un souci.
Mais je pense que c'est en fonction des horaires, parce que les gens, quand ils arrivent chez eux, c'est exactement la même chose. Tu viens de le dire, c'est comme l'ordinateur. Plus il y a de monde et plus ça perturbe le réseau. Voilà, c'est tout. Alors ça arrive comment? Mais les gens, ils rentrent à 17h, 18h chez eux, ils enclenchent la télé, ils enclenchent la box, ils enclenchent tout. Et là, ça, c'est là. Par contre, si tu téléphones à 3h de l'après-midi ou à 10h du matin, il n'y a pas de problème parce que tout le monde est au boulot. Voilà, c'est tout simple. C'est exactement.
Il me semblait qu'autrefois, ça ne le faisait pas. Donc, est-ce qu'il y a plus de monde chez eux?
Non, mais il y a beaucoup plus.
Moi, je veux dire.
Beaucoup plus de gens qui ont des téléphones, il y a beaucoup plus de gens qui ont des box. Ouais. Voilà, c'est tout. C'est tout simple. Et c'est vrai qu'à la fibre, ça devient un enjeu national. Hein.
Et il ne nous reste plus que 2 minutes. Un autre petit mot sur un autre sujet.
Moi, ce que je voudrais dire d'abord, c'est que les élections présidentielles sont passées. Elles sont ce qu'elles sont. On l'a revu. On a, pour la deuxième fois, on a eu le même combat, quoi, si, pour ainsi dire. Alors, je n'ai pas de commentaire à faire sur le choix des Français. Par contre, si j'ai un commentaire à faire, c'est sur l'abstention record. Et ça, c'est inquiétant dans un pays démocratique comme le nôtre. Moi, je sais qu'on a des anciens qui se sont battus pour avoir le droit de vote, et ça, je trouve ça dommage. Alors, premier point, Moi, j'estime qu'on aurait comptabilisé le vote blanc, parce que c'est, le blanc est nul, parce que c'est important. La deuxième chose, c'est que la présidentielle est une chose, la législative en est une autre. C'est-à-dire qu'on va élire nos députés. Eh bien, moi, sans faire de commentaires sur les candidats, les divers choix, les partis politiques, moi, j'espère que les Français se mobiliseront beaucoup plus qu'ils l'ont été et qu'il y aura des gens qui iront quand même voter pour le député de leur choix dans la circonscription où il réside. Voilà, moi, je dis allez voter parce que c'est important d'aller voter, quoi.
Oui, ben moi c'est la même chose, on est maire tous les deux, donc on est là pour respecter la République. Le premier droit du citoyen, c'est d'aller voter. Et je serais tentée de dire aux femmes, on l'a eu beaucoup plus tard que les hommes. Et donc voilà, il faut en abuser et voter. Enfin, je veux dire, voilà. Par contre, comptabiliser les blancs, ok, les nuls, ça dépend ce qu'il y a dessus. Parce que des fois, tu as des jolies choses. Donc à un moment, les blancs sûrement. Mais voilà. Donc, après, aller voter, il faut voter, c'est un droit démocratique. On ne peut pas critiquer si on ne vote pas.
Je vais terminer moi en disant, quand il y a eu les fameux cahiers de doléances des maires ruraux, j'ai été en Dordogne, on a été les premiers à remettre ce cahier de doléances au Premier ministre, qui s'appelait à l'époque Édouard Philippe, et dans les questions et les réponses que les maires pouvaient lui poser, moi je lui avais posé cette question, je lui ai dit, mais pourquoi vous ne comptabilisez pas les votes blancs et pourquoi l'abstention est si importante, donc il faudrait faire quelque chose. Et il m'a répondu, je réponds à votre question par une question, si je mets le vote obligatoire, qu'est-ce que vous en pensez? C'est dans ma question, il y avait pratiquement sous-entendu sa réponse. Alors c'est un choix. Est-ce qu'il faut mettre ce vote obligatoire? Je ne sais pas.
Oui, il y a d'autres pays d'Europe qui ont le vote obligatoire, hein, sur les heures de boulot. Donc après, c'est un choix.
Bon, on en finit là. On en rediscutera peut-être le mois prochain.
Alors, ce qui est important pour finir, ce week-end, nous avons notre Assemblée Générale des maires ruraux à Lyon. Donc, nous en ferons un petit compte-rendu à la prochaine réunion, parce que c'est important. Nous réunissons tous les maires de France à Lyon pour ce congrès des maires, cette Assemblée Générale des maires ruraux. En attendant, on travaille beaucoup le bureau, Gérard, Brigitte et tous les autres. On est 12 au bureau. Pour notre congrès national qui, cette année, exceptionnellement, se tiendra en Dordogne à Imay. Donc le 30 septembre, le 1er et le 2 octobre, le congrès national des maires ruraux sera à Imay. Bravo.
Bravo à vous. Et au mois prochain.